Ce matin, j'aimerais commencer un message sur les passages de la Bible qui éclairent notre monde. Et nous vivons dans un monde en grand changement, en grande évolution. Ce n'est pas le monde des années 70-80 où tout était assez plat. Nous sommes dans un monde qui, chaque jour, il y a des nouvelles choses qui se passent, des changements profonds, des guerres, des alliances qui se font, se défont. Il y a le terrorisme qui s'est invité, mais il y a aussi des épidémies. Enfin, il y a vraiment de quoi trembler chaque jour. Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Mais le Seigneur, lui, ne change pas. C'est ça qui est merveilleux. Nous avons un Dieu qui est un rocher, une forteresse, et nous pouvons compter sur lui. Et sa parole nous éclaire et nous donne des clés pour vivre dans ce monde. Et aujourd'hui, ce qui se perd le plus, c'est le bon sens. Et la sagesse, l'intelligence, comme dit la Bible. L'intelligence dans la Bible, ce n'est pas l'intellect, hein, le fait de pouvoir calculer des équations de plusieurs niveaux. L'intelligence dans la Bible, c'est un mot qui veut dire la compréhension des choses spirituelles. Et c'est quelque chose qui manque, qui disparaît. La sagesse disparaît et ça a des conséquences terribles. Le passage que j'aimerais regarder ce matin est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, et je vais commencer à lire au verset 16. Romains 1 et le verset 16 et la suite. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Évidemment, c'est un passage sévère, mais juste, et qui décrit en partie ce qui se passe et qui va nous aider à comprendre. Dieu ne juge pas sans nous expliquer les choses. Quand vous regardez toute la Bible, Dieu a jugé l'humanité à plusieurs reprises, mais chaque fois, il a prévenu les hommes longtemps, longtemps à l'avance. Il a dit, ne faites pas ça, non, je vous ai donné ma loi, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et les hommes ont dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et un jour, boum, le jugement tombe. Ici, le Seigneur nous a donné l'évangile, la bonne nouvelle qu'on peut être sauvé à travers Jésus-Christ, par la foi, c'est pas par des œuvres, c'est pas par la religion, c'est par la foi, la confiance dans le sacrifice de Christ qu'on peut être sauvé, délivré. Mais il y a aussi la colère de Dieu. C'est John Wesley, le père du méthodisme, qui a connu un réveil personnel et a amené même un réveil dans plusieurs pays. Il disait, quand il formait ses jeunes évangélistes, il disait, il y a trois choses à dire quand vous prêchez l'évangile. Il faut d'abord parler de l'amour immense de Dieu. Mais ensuite, il faut parler de la condamnation terrible sur le péché. Et enfin, il faut parler du salut merveilleux par la grâce et par la foi. Et je trouve que ça résume bien. Il doit y avoir les trois choses, l'amour immense de Dieu. Ici, pourtant, il est parlé de la colère de Dieu. Et quand on ne connaît pas bien la Bible, on imagine Dieu qui fulmine, hein, il y a de la fumée qui sort de ses narines, ses cheveux qui se hérissent et il lève le poing. Il est fâché, il est en colère. Ce n'est pas ça la colère de Dieu dans la Bible. La colère de Dieu, c'est le jugement sur le péché, un juste jugement. C'est lorsqu'il n'y a plus de grâce, c'est lorsque la grâce est terminée, lorsque la porte se ferme, c'est l'heure de la colère. Il y a eu plusieurs colères, il y a eu le déluge notamment, il y a eu Sodome et Gomorre, et il y aura une colère future qui est mentionnée dans l'Apocalypse, le jour de la colère, aussi du juste jugement de Dieu. Quand on est dans la colère, c'est terminé, c'est trop tard. Ici, la colère de Dieu se révèle du ciel, et pourtant Dieu est amour. Il est toujours amour. Alors comment est-ce qu'on peut être en colère et amour? Mais, si on est parent, on a une petite idée de ce que c'est. On aime ses enfants. Mais est-ce que ça n'arrive pas des fois qu'on est en colère, quand on les voit commettre des choses stupides, dangereuses pour eux? On dit, mais ne fais pas ça, malheureux! Et parfois, nos enfants, surtout quand ils sont petits, nous testent. Alors, ils font une bêtise en nous regardant. Ils disent, non, 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 ça c'est interdit, tu le sais. Et ils recommencent. Non, je t'ai interdit. 3, 4. Et puis, selon les parents, la colère tombe. Je t'avais prévenu. Et la correction arrive. Et l'enfant sait qu'il y a une limite au mal. Qu'à un moment, il va y avoir un jugement. Et c'est bon pour lui parce que ça va lui faire craindre Dieu aussi. C'est que dans la société, dans la vie, vous ne pouvez pas aller aussi loin. Dieu va vous arrêter et vous serez condamné, soit par la justice humaine, soit par la justice de Dieu. Et donc, on peut aimer tout en étant dans la colère. La colère, c'est le moment du jugement. Mais l'amour, c'est tout ce qu'il y a avant lorsqu'on prévient, lorsqu'on plaide, lorsqu'on offre son pardon, sa grâce. La colère, c'est pour ceux qui ont refusé tout ça. Ici, il dit, elle se révèle contre toute impiété et injustice des hommes. Qu'est-ce que c'est l'impiété et l'injustice? Mais en fait, pour comprendre ces deux mots, il faut penser aux 10 commandements. Dieu a laissé une loi avec 10 commandements. Et ces 10 commandements peuvent se résumer en 2. Est-ce que vous vous rappelez les 2 commandements principaux? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier. Et puis le deuxième, tu aimeras ton prochain. L'impiété, c'est le péché contre Dieu, contre l'amour de Dieu. C'est de refuser Dieu, de refuser de l'honorer, de le reconnaître comme créateur. C'est de ne pas aimer Dieu, c'est désobéir aux 4 premiers commandements hein, des 10. L'injustice, c'est de ne pas aimer son prochain. C'est de refuser d'obéir aux 6 commandements suivants. Et Dieu est en colère contre les hommes qui le rejettent et qui haïssent les hommes. Et pourquoi ces 2 commandements sont-ils liés? Pourquoi est-ce qu'il y a aimer Dieu et ensuite aimer son prochain? Eh bien, dans l'expérience, on se rend compte que pour vraiment aimer son prochain, il faut d'abord aimer Dieu. Que quand on rejette Dieu, on rejette l'amour aussi. et que très souvent, ceux qui rejettent Dieu, très très souvent, n'aiment pas leur prochain non plus. Ils sont centrés sur eux-mêmes. J'aime ceux qui m'aiment, j'aime quand ça m'arrange. Mais le vrai amour du prochain, c'est quand on découvre qui est Dieu, quand l'amour de Dieu vient dans notre vie. Et là, on commence à apprendre le vrai amour, parce que c'est l'amour de Dieu qui coule en nous. Mais le péché de cette catégorie de personnes qui rejettent Dieu et qui n'aiment pas les hommes, c'est de retenir injustement la vérité captive. Ils ont la vérité, ils connaissent la vérité, mais ils la cachent. Et il n'y a rien de plus coupable que d'avoir la vérité et de la cacher. Il dit, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu leur a fait connaître. Beaucoup de gens disent, mais moi je veux bien croire en Dieu, mais qui se montre? Où est Dieu? Je ne le vois pas, je ne peux pas croire en lui. Et ça, c'est vraiment une excuse, une mauvaise excuse, et c'est un mensonge. Parce que Dieu se révèle tout le temps. Par la création, hein, il le dit. Il suffit d'aller devant une montagne, devant un océan, de voir un orage, de voir des animaux, des fleurs, de voir le corps humain. Vous dites, mais c'est extraordinaire. C'est la création de Dieu. Et votre conscience vous crie, c'est la création de Dieu. Et puis avec votre intellect sceptique, qu'est-ce que vous dites? Tais-toi, conscience. Ce n'est pas la création de Dieu, c'est le fruit d'une lente évolution de millions d'années. Par le hasard et la chance. Et vous étouffez par le mensonge, la vérité de votre conscience, la vérité du bon sens, des yeux. Qu'est-ce que mes yeux me disent? C'est beau. Pourquoi mes yeux me disent c'est beau? Pourquoi la montagne c'est beau? Pourquoi la mer c'est beau? Ça pourrait être juste là. Non, on trouve ça beau parce que Dieu nous a créés et nous a placés sur cette planète. Et il a créé pour notre bien. Tout est fait pour l'homme, hein, pour notre survie. C'est fou le nombre de choses extraordinaires qu'il y a sur la planète pour notre survie. Et Dieu n'a pas fait, par exemple, qu'une seule nourriture. Imaginez qu'il n'y ait que le maïs. Qu'on puisse manger que le maïs. Tout le reste, immangeable. Ben, imaginez qu'il y ait une maladie qui touche le maïs et pff, plus de maïs. Qu'est-ce qui se passe? Plus d'humanité, plus rien à manger. Mais Dieu a fait une variété incroyable de nourriture. Notre estomac est capable de digérer toutes sortes de choses, même bizarres. Dieu a fait que la nature nous protège, même s'il y a des dangers dans la nature. Mais la nature est nourricière. Et quand on dit « la nature fait bien les choses », il faudrait dire « Dieu a bien fait les choses ». Oui, les perfections invisibles de Dieu, elles sont invisibles, mais elles sont là. Une feuille, une fleur, c'est parfait. C'est là, c'est beau. Un animal, même les plus petits animaux, les insectes ou même les bactéries sont incroyablement belles et parfaites. Peut-être pas belles pour tout le monde, mais tout est là. Tout est combiné en plus. Tout se combine, marche magnifiquement. Et nous, quand on vient mettre notre doigt là-dedans, ben, on casse tout. Sa divinité se voit. On voit qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu intelligent. Que la création n'est pas l'œuvre juste d'une force aveugle. Elle est l'œuvre d'une force aimante, bienveillante. Ça se voit à l'œil nu. Et le renier, c'est rejeter Dieu. Et Dieu est en colère contre ceux qui font ça. J'étais de cela. Quand j'étais athée, je ne voulais pas croire en Dieu, même si ma conscience me disait qu'il y avait un créateur. Quand je regardais le ciel étoilé, dans mon cœur, je disais, c'est beau. Il y a quelqu'un là qui a fait ça. Et puis, tout de suite, non, 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 tu es athée. Il ne croit pas à ces choses-là. Il n'y a ni Dieu ni diable, ni vie après la mort. Il n'y a que maintenant, il faut en profiter tant que tu es maintenant. Et puis chaque fois que je voyais la création, je me disais, c'est quand même incroyable, c'est extraordinaire. Jusqu'au jour où Dieu m'a convaincu de mon péché, de ma rébellion. Si j'étais athée, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas croire en un Dieu. Mais bien sûr que je pouvais croire en un Dieu. C'est que je ne voulais pas qu'il y ait un Dieu dans ma vie. Parce que je voulais être mon propre Dieu. Et on va voir la conséquence de vouloir être son propre Dieu. Dieu déclare ici, ils sont inexcusables. Quand Dieu dit ça, ça fait mal. Si moi je vous dis tu es inexcusable, on va dire bon, c'est un être humain qui me dit ça. Mais quand Dieu dit tu es inexcusable, ça veut vraiment dire que tu es inexcusable. Tu ne peux pas, tu ne vas pas devant le jour, au jour du jugement dire « Oui, mais je n'ai pas entendu parler de la Bible, je n'ai jamais lu la Bible. Oui, mais personne ne m'a parlé de Jésus ou du salut, ou je ne sais pas. » Il n'y aura plus d'excuses. La révélation de Dieu était sous tes yeux et je suis certain que quelqu'un un jour t'a parlé. Tu as eu un article, tu as eu quelque chose sous tes yeux et tu l'as rejeté par rébellion. Ils sont inexcusables. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne l'ont pas remercié. C'est curieux ce verset 21, parce que le plus grand péché, c'est de ne pas remercier Dieu. Pourtant, c'est simple de remercier Dieu. Je suis effrayé et fasciné en même temps chaque fois qu'il y a une catastrophe en France ou un massacre. Les gens qui ont échappé à ces choses d'une façon mais vraiment miraculeuse, on peut le dire, hein. Ils disent « Oh, j'ai eu chaud, j'ai failli passer. Hein. Oh là là. Vraiment, ça m'a fait peur. » Vous allez dans un autre pays où la même chose est arrivée, 90% de chance, la personne va dire « Je rends grâce à Dieu. » En France, non. Parce qu'on a été élevé, éduqué comme ça, tu te satisfais à toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu. Mais alors, la colère de Dieu te vise là, tu es inexcusable. Même la championne olympique de gymnastique, hein, elle a gagné toutes les médailles de gymnastique possibles, imaginables, et quand on l'a interviewée, elle a dit « Je remercie le Seigneur ». La première femme noire à gagner une médaille d'or en natation, une américaine. Et c'était un exploit, parce qu'il y a très peu de nageuses de couleur qui ont des médailles d'or en natation. Et là aussi, ils ont dit « Alors, vous devez être ravis, c'est extraordinaire, c'est un exploit, c'est fantastique ce que vous avez fait. Oh, moi, je veux juste remercier Dieu, voilà, avant toute chose. » Quand vous entendez ça, vous dites, voilà, quelle humilité, elle ne dit pas, oui, c'est vrai, regarde, j'ai travaillé des heures, et maintenant, regarde, je suis la meilleure du monde. Non, je veux avant toute chose remercier Dieu. Qu'est-ce qui vaut mieux, l'orgueil de l'homme qui dit, tout ce qui m'arrive, c'est grâce à moi, ou l'humilité du chrétien qui dit, je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Et là, on arrive au point de jugement. Quel est le jugement qui tombe sur quelqu'un qui rejette Dieu ? Et les autres, ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et là, c'est bien notre société. Nous pensons être extrêmement sages. Nous sommes héritiers des Lumières, n'est-ce pas ? 19e siècle, 18e siècle, les Lumières ont changé. Nous sommes sortis du Moyen-Âge où les gens croupissaient dans les ténèbres et nous sommes devenus l'humanité 2.0, comme on dit, ou 3.0. L'humanité qui contrôle tout, eh bien, notre humanité, vous l'avez remarqué, devient folle. On devient fou. Pour moi, une illustration magistrale de ça, c'est le Pokémon Go. Donc, c'est cette application que vous téléchargez sur votre téléphone. Pour ceux qui connaissent les Pokémon, c'est des petits êtres diaboliques, des petits machins moches, japonais, je pense. Et vous devez les chasser dans la rue ou dans n'importe quel lieu public avec votre téléphone. Vous êtes là et quand vous en attrapez un, en le chassant par divers moyens, vous avez une récompense, je ne sais pas ce que vous gagnez dans l'histoire, mais enfin. Et vous avez donc des gens, des enfants, oui, mais des adultes qui se baladent avec leur téléphone en chassant le Pokémon dans les rues. Il y a eu un premier mort qui s'est fait écraser, je crois. Il va y en avoir d'autres. Il y a les militaires français qui disent « Ne mettez pas des Pokémon dans les bases militaires, sinon on va avoir des gens qui vont franchir les choses de sécurité, ils vont se faire tirer dessus. » Les écoles disent « Ne mettez pas des Pokémon Go dans les écoles. » Mais on est tombé sur la tête, quoi. Est-ce que ce n'est pas le plus ridicule du monde d'être là, de chasser ces Pokémon Go dans la rue ? « Ah, j'en ai un !» Des mouvements de foule où les gens courent tous ensemble pour attraper un Pokémon Go. Pourquoi on fait ça ? Et je ne veux pas me moquer d'un air hautain de ces personnes-là. On fait ça parce qu'on n'a rien d'autre. Parce qu'on a mis Dieu de côté, donc le reste de la vie, c'est quoi ? C'est l'absurdité de la vie. C'est donc pourquoi pas les Pokémon Go. Alors, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Et encore, le Pokémon Go, c'est gentil. Mais il y a des gens qui vont dans des ténèbres bien pires. Hein, dans l'occultisme, dans les sectes, qui vont voir des voyants, des gourous, qui perdent leur vie dans des choses absurdes. Je pense aussi aux crises d'identité des jeunes. Aux États-Unis, il y a la guerre des toilettes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la guerre des toilettes. C'est qu'il y a certains magasins qui font des toilettes neutres ou mixtes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, il peut y avoir quelqu'un qui a un corps d'homme mais qui se sent femme, qui veut aller dans le toilette des femmes. Donc il faut lui permettre d'aller dans le toilette des femmes. Et en fait, il y a une sorte d'épidémie de gens qui sont biologiquement hommes et qui pensent être une femme, et de femmes biologiquement femmes qui pensent être un homme. Et il y a une épidémie d'homosexualité aussi. Et on dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible nous révèle l'origine de ces choses. C'est le rejet de Dieu qui mène à un aveuglement. Et ils disent, ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et Dieu les a livrés à des passions contre nature. Les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et même la Bible ne parle pas de ce phénomène d'hommes qui disent, non, moi je ne suis pas un homme, je suis une femme. Pourtant, tout contredit, biologiquement, il est absolument un homme. Il y a ce mensonge qui circule chez beaucoup d'homosexuels et même chez ceux qui ne le sont pas, que les homosexuels naissent homosexuels, qu'il y a un gène de l'homosexualité. Études scientifiques après études scientifiques réfutent ce fait. Ils ont étudié des jumeaux dont l'un est devenu homosexuel et très souvent, la majorité des cas, l'autre ne le devient pas. Si c'était génétique, ils ont les mêmes caractères génétiques, ils devraient devenir tous les deux. Ce n'est pas génétique, on ne naît pas homosexuel, mais souvent ils disent, mais aussi loin que j'y pense, j'ai toujours été attiré vers les gens du même sexe que moi. Mais c'est les ténèbres qui touchent les cœurs, les pensées, les consciences et qui font que les gens perdent totalement leurs repères. Ils ne savent plus qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que je fais là, qui je suis. C'est vraiment un signe d'être dans les ténèbres. Leur cœur plongé dans les ténèbres, ils sont devenus fous. Les gens qui se font des tatouages dans tous les sens et ça devient de plus en plus, ça couvre de plus en plus le corps. C'est comme si on haïssait notre peau, notre corps, et on veut la couvrir. Les piercings qui deviennent de plus en plus élaborés, dans toutes les parties du corps, dans tous les coins. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous prend? Il y a une sorte d'excitation folle. On va dans le mur parce qu'on a rejeté Dieu. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et après, il y a toute cette liste que je vous ai lue, la malice, l'envie, le meurtre, la médisance, l'impiété, l'arrogance, fanfaron, ingénieux au mal. Combien l'homme est devenu ingénieux au mal dans la torture des autres, dans la barbarie. Alors on peut dire on a toujours été comme ça, c'est vrai. Mais c'est en train de revenir. L'homme soi-disant civilisé du 21e siècle, il est aussi barbare que les autres civilisations. Et toutes les civilisations sont montées et ont chuté. Il y avait dans Le Point tout un article, c'était très intéressant, de Roger Polledroit sur la chute des civilisations. Et tous les savants, les historiens qui ont étudié la chute des civilisations, ils disent, la civilisation est tombée par elle-même. Le problème est venu de l'intérieur. On dit souvent, oui, c'est les terroristes, c'est les immigrations. C'est l'intérieur qui est pourri. Et l'intérieur, c'est quoi? C'est l'intelligence spirituelle. C'est la moralité. C'est les valeurs, les principes. Quand tout ça s'effondre, la civilisation s'effondre avec. Et nous sommes en train de vivre quelque chose comme ça, en Occident. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétien? Eh bien, on doit rendre grâce à Dieu. On ne doit pas commettre ce péché d'ingratitude, mais on doit remercier le Seigneur pour toutes choses, dit la Bible. On doit aussi annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai pas honte de l'évangile, a écrit Paul. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parmi toutes ces personnes qui sont éduquées dans le scepticisme, dans l'athéisme ou l'agnosticisme, heureusement, il y en a beaucoup qui sont prêts à venir au Seigneur. mais il faut leur parler. Et il faut avoir un témoignage de quelqu'un qui rend grâce à Dieu. Même si ça devient de plus en plus à l'envers, bizarre. Il fut un temps où les gens qui n'étaient pas croyants étaient regardés. Oh, c'est un athée. Oh là là, ça doit être un communiste, un révolutionnaire, quelqu'un d'horrible. Aujourd'hui, oh, c'est un chrétien. Il doit être bizarre, il doit être totalement... Et les choses se renversent. Il y a des acteurs hein, qui plaisantent en disant « Je vais faire mon outing, hein, vous savez, je vais révéler mon hétérosexualité au monde. » Parce que c'est l'inverse. Hein. Avant, c'est les homosexuels qui révélaient qu'ils étaient homosexuels. Mais maintenant, on est si peu nombreux qu'on va révéler qu'on a une femme et qu'on est fidèle à sa femme. Le monde à l'envers. Mais en tant que chrétien, on doit avoir cette position ferme, aimante, douce, de dire « Il y a un Créateur qui nous aime. » Il y a aussi la colère de Dieu qui nous amène à cette folie. Mais on peut sortir de la folie en remerciant Dieu, en se tournant vers lui et en regardant à Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu incarné, qui a donné sa vie pour nous. C'est vrai que Dieu a livré les hommes. Ce n'est pas Dieu qui les pousse au mal. Dieu ne pousse personne au mal. Mais il dit, tu ne veux pas de moi, je te livre à tes passions. Et nos passions, elles nous amènent où ? Toujours plus bas. Dans la barbarie, dans la pornographie, dans la cruauté, dans l'égocentrisme. Aujourd'hui, tout le monde, on ne prend plus des photos normales, on ne prend que des selfies. On ne sait plus prendre les gens en photo, il faut toujours qu'on soit dedans, comme ça, avec des perches, des machins. J'ai trouvé le mot français de selfie, un des mots français, une des traductions, c'est égoportrait. Et c'est moins attirant comme truc. Hein. Oh, j'ai pris un égo-portrait. Ah bah, dis donc, bravo. Par contre, j'ai pris un selfie. Ah, c'est cool, ça, c'est bien. Eh bien, oui, ce sont des égo-portraits. On est égocentrique. La tour Eiffel derrière, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est mon visage qu'on doit voir. Le chrétien ne doit pas suivre cette folie. Hein. Il doit vraiment rester dans la parole de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence spirituelle. Il doit être gracieux envers ses compatriotes qui sont en train de plonger dans les ténèbres. Parce qu'on y était aussi dans les ténèbres. Hein. Et je pense que tous, on peut dire, nous étions dans les ténèbres. Il n'y en a pas un qui peut dire, mais moi, j'ai toujours été dans la lumière de Dieu. Non, nous étions dans le péché, dans l'esclavage, dans des addictions, dans la folie. Mais le Seigneur nous en a retirés. Et nous pouvons dire aux autres, le Seigneur veut vous en retirer. À vous maintenant de vous repentir, de vous tourner vers lui, de reconnaître qu'il y a un Créateur qui vous aime et qui a créé cette terre pour qu'on y habite. Que le Seigneur nous aide à être ses témoins courageux et fidèles et à pouvoir avertir ceux qui nous entourent. Même si on est comme Noé, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont vouloir nous écouter, mais on doit faire comme Noé, on doit leur dire « Sauvez-vous de cette génération perverse ». On va terminer par un cantique.